Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Ah oui, je suis très heureux de vous retrouver pour cette première émission de rentrée, cette première grande hebdo avec notre premier invité de la saison. Dans un instant, le chanteur Joseph Kamel va venir nous rejoindre. On va parler également avec Anne Charrier de la série L'Éclipse qui débarque mercredi sur France 2. C'est le grand retour de la stagiaire depuis mardi dernier. Demain soir, vous allez découvrir la suite de la saison 9. Michel Bernier et Antoine Hamel seront avec nous ensemble pour la première fois dans Chut, on écoute la télé. Allez, une des nouvelles élèves de l'Institut Auguste Armand, dont Ici tout commence, Eliorissa alias Thelma, viendra également nous rendre visite. Et puis, comme chaque année, c'est la rentrée de Scène de Ménage, Frédéric Bourali viendra également nous rendre visite. Et la Philippe également sera avec nous. Elle nous parlera de Nisma dans Plus belle la vie. Vous l'avez compris, c'est chargé aujourd'hui pour cette émission de rentrée. Mais on va tout de suite démarrer en musique.
L'invité d'honneur de la semaine.
Je serai partout où tu veux. Je serai partout où tu veux. Si tu veux bien de moi. Si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux. Et si t'as trouvé mieux. Je veux le voir avec toi. Je veux le voir. Je serai partout où tu veux. Si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux. Je veux le voir avec toi. Je dirais qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier au revoir.
C'est notre premier invité de la saison. Vous l'avez déjà entendu un petit peu chanter, celui qui part. C'est ce qu'on vient d'entendre là à l'instant. Ça montre un peu la couleur de cette saison qui va être en couleur, je vous le dis. Ça va être le parrain de cette nouvelle saison de Chut, on écoute la télé. Joseph Kamel qui est avec nous. Bonjour Joseph.
Bonjour, ravi d'ouvrir cette saison et merci de me nommer parrain. Je suis très heureux.
Écoute, nous on est très heureux de t'avoir parce que aujourd'hui t'es un des artistes les plus joués en radio. Tu rayonnes à travers la scène musicale française de manière très forte. Tu vas monter sur la scène de la Cigale en février prochain. L'album Miroir cartonne. Tout va bien pour toi, dis-moi.
Bah tout va bien, franchement je suis très heureux. En tout cas, le plus beau c'est de pouvoir me réveiller chaque matin, regarder mon planning et me dire que c'est que de la musique. C'était un rêve de gosse et là voilà, c'est ce que je fais du lundi au dimanche, 24h sur 24 par contre. Mais c'est ce que je fais et c'est énormément de joie et puis évidemment énormément de reconnaissance envers toutes les personnes qui m'ont permis de vivre comme ça de ce que j'aime quoi.
Si on devait faire un petit retour en arrière, à quel moment le petit Joseph que tu étais a su qu'il voulait faire de la musique et a su surtout qu'il voulait en faire son métier?
Écoute, c'est assez flou. En fait, je crois que pour moi, l'idée d'être chanteur professionnel ou même musicien professionnel était quelque chose qui était tellement inaccessible et du domaine du rêve, quoi, tu vois, comme un gamin qui fait du foot sur un terrain et qui se dit « je veux jouer au PSG ». Pour moi, c'était ça. Donc, quand j'étais gosse, j'avais déjà cette passion, cette envie d'en faire, mais pour moi, le goal, c'était si je peux avoir un job et puis le week-end faire des concerts, comme je voyais certains amis de mes parents le faire, ou que je peux un jour rentrer dans un studio pour voir comment c'est pour de vrai et tout. C'était ça, mais mes objectifs. Et au fur et à mesure de ma vie, il y a eu des rencontres, des opportunités qui ont commencé à me faire mûrir l'idée que c'était possible en fait. Et avant que j'aie le temps de réaliser, bah ça y est, c'était possible. Je faisais ça à plein temps. J'ai lâché mon boulot de pion dans un lycée. Et je me suis dit waouh, ça y est maintenant. Tu sais, j'ai le souvenir du premier moment où quelqu'un m'a demandé mais vous faites quoi dans la vie et que j'ai répondu chanteur. J'ai presque envie de chialer. Alors j'étais à la poste en plus, c'est nul. Je me disais c'est dingue d'avoir ça comme métier. Mon métier c'est chanter.
C'est des métiers passion. C'est vrai qu'on est un peu sur la même longueur d'onde pour le coup tous les deux quand on demande voilà animateur radio, que ça peut être le rêve de plusieurs jeunes aussi. C'est des exemples, des parcours comme le tien aujourd'hui. On t'a repéré dans l'émission des artistes hein, sur France 2 qui a été pour toi un tremplin. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un vrai rapport aussi avec la télé pour le coup avec toi dans l'émission aujourd'hui. Et c'est encore plus pour ça qu'on est content de te recevoir évidemment. Mais ça a été un beau tremplin.
Bah ouais, c'était une émission. Qui était, encore une fois, si on parle de télé, justement, c'est une première mondiale, ce qu'a proposé Nagui. C'était la première fois qu'on avait un télécrochet d'auteurs, compositeurs, interprètes. C'est-à-dire des gens qui viennent avec tous ces codes qu'on connaît du jury, de la finale, la demi-finale, les votes du public et tout, mais des chanteurs qui chantent leurs propres chansons. Et même si comme ça paraît pas dingue, il faut quand même se dire que Nagui a été voir une des plus grandes chaînes françaises en leur disant « Je vous propose une émission avec des gens qu'on connaît pas, qui chantent des chansons qu'on connaît pas, à une heure de grande écoute en face de The Voice. » Et il y avait que à lui qu'on pouvait dire oui pour un truc pareil. Et pour moi, comme pour tous les copains qui ont participé à cette aventure, ça a été une expérience à la fois professionnelle et humaine qui était complètement incroyable. Et évidemment, à chaque fois que je parle de cette émission, j'ai une pensée très émue pour mes copains de Rookin qui ont perdu Nino récemment, qui était un très très bon ami à moi. Et à chaque fois que j'en parle, évidemment, j'en profite pour faire un coucou à tout le monde.
Alors, cette émission a été un tremplin. Il y a eu un EP pour commencer. Il y a eu l'album Miroir qui est sorti il y a maintenant presque un an, en octobre l'année dernière. Des scènes un peu partout en France aujourd'hui. C'était une volonté directe d'aller défendre tes titres sur scène. De toute façon, ça c'était vital.
Ouais, bah de toute façon, c'est évident. Pour moi, une chanson n'existe que quand elle est reprise par des gens dans une salle ou sur un parvis comme celui sur lequel je suis au moment où on se parle. C'est là où on prend vraiment la dimension d'une chanson. C'est le moment où chacune des personnes qu'il a écouté dans son coin, qu'il a vécu avec sa propre interprétation, avec son moment, tous ces gens se rassemblent, toutes ces voix se rassemblent, et c'est là que la chanson existe. Et en plus, elle existe différemment tous les soirs. Donc pour moi, c'était vraiment indispensable d'aller le plus possible à la rencontre des gens et de continuer à le faire là avec cette tournée, et en plus avec une bande de potes, donc c'est génial.
Et t'as commencé justement sur scène aussi en faisant les premières parties de Julien Doré. Et ça a été là aussi une véritable rencontre tremplin, puisque ça va être évidemment cette rencontre qui a fait que ce single magnifique que moi j'adore, c'est un de mes préférés de l'album, qui s'appelle Beau, qu'on va écouter dans un instant, a éclos.
Bah, c'était une rencontre complètement dingue. En fait, Julien Doré découvre un de mes titres dans un TGV pour rentrer chez lui. Et à ce moment-là, il aime une chanson qui s'appelle Pardon, qui était sur le premier EP. Et il envoie un message à mes équipes pour leur proposer que je vienne sur sa tournée faire quelques premières parties au début. Et moi, mes équipes me rappellent en me disant « Ouais, Julien Doré t'invite à son Zénith. »
Là, déjà la classe, quand même.
Là, déjà la classe, mais moi, j'ai pas compris. Et en fait, je pensais que j'étais invité dans le public. Mais j'étais grave content d'être là, déjà. Je me disais « Tiens, il a écouté une chanson, il veut que je sois dans le public, je vais peut-être le rencontrer après et tout. » Et on me fait « Non, t'as pas capté, en fait, tu fais les premières parties. » Et là, ça a été une avalanche de stress énorme. Parce qu'évidemment, moi, j'avais fait 2-3 scènes à Caen avant d'arrêter, j'avais fait l'émission. Et après, me voilà pour la première fois sur la scène du Zénith de Caen devant 7000 personnes. Donc, gros coup de flip. La première scène se passe vraiment super bien. Et donc, ce qui était 4 premières parties deviennent 22 premières parties. Je suis Julien sur toute la tournée, quasiment. Et à la 11e date, je prends mon courage à deux mains pour aller le voir et lui dire « Est-ce que t'accepterais de chanter avec moi sur mon album ?» Et il accepte. Et naît cette chanson « Beau ». Et évidemment, ni lui ni moi, on s'attend à autre chose qu'à une chanson qui venait clôturer une belle histoire au final. Et ça devient single de platine maintenant, donc assez fou.
On en écoute un extrait.
Allons-y, avec plaisir, merci.
C'est parti, Julien Doré et Joseph Kamel, Beau, c'est maintenant dans Chute, on écoute la télé.
Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui verra son réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rembelle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil. Si tu savais comme c'est beau. Tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Elle a laissé son cœur entre nous. Entre nous et le reste. Elle a laissé son cœur à genoux. Sur le sol des promesses. Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste elle s'en fout. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. Son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
C'est un peu le tube de l'été, Joseph. Hein. Franchement, on se l'est tous chanté un peu dans la tête. Hein. Si tu savais comme c'est beau, c'est génial.
Tu chantes super bien. Je...
Arrête, fous pas de moi quand même. Je suis pas encore ta première partie. Hein.
Non, mais écoute, c'est assez dingue. On en parlait tout à l'heure de ces voix qui s'unissent quand on est en concert. Et sur cette chanson-là, c'est particulièrement vrai. Et à chaque fois, je prends une claque. Quoi. Je sais qu'avec les gars sur scène, c'est notre moment où on se dit waouh, c'est fou que ce refrain qui est né comme ça sur une convoi de sap entre deux potes se retrouve là dans autant de voix.
La célébrité, c'est quelque chose qui t'a fait peur au départ, parce que alors, toi, ça montait crescendo petit à petit, moins violemment que pour ton copain Pierre Garnier, je crois, hein. Mais en tout cas, petit à petit, ça monte bien. Est-ce que ça te fait peur ou pas?
Écoute, il y a un truc qu'il faut savoir sur moi, c'est peu radiophonique, mais je fais un peu plus de 2 mètres. Donc, toute mon adolescence et ma vie de jeune adulte, j'étais habitué à me balader dans la rue et à ce que les gens se retournent un peu sur moi et puis viennent me parler alors que je les connaissais pas pour me demander ma taille et machin, etc. Donc, au moment où ça a commencé à changer pour moi dans ma vie pro, en fait, j'ai pas senti tant de différence que ça. C'est juste que maintenant, je me demande pourquoi ils se retournent. Est-ce que c'est parce que je suis grand ou c'est parce qu'ils connaissent les chansons? Mais en vrai, je le vis bien. Tu sais, je suis toujours... dans ma vie, là, quand j'ai toujours les mêmes potes, j'ai toujours la même équipe. Je passe du temps avec ma famille. Avec mon chat, je joue à FIFA. C'est
la base, quoi.
La base totale. Non, ça a pas changé tant de choses. Évidemment, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué parce que je peux moins, faire ce que je voulais comme avant, c'est-à-dire, je sais pas, aller faire mes courses dans un survêt dégueulasse du Real avec mes Crocs. Maintenant, je me dis bon, si jamais on me demande une photo, c'est relou. C'est vraiment tout ce que ça a changé. J'ai aussi la chance d'avoir un public qui est hyper bienveillant, qui est hyper cool et qui, quand ils viennent me parler, c'est jamais intrusif, c'est toujours une discussion qui s'engage, c'est toujours des trucs cool qu'on me dit. Donc honnêtement, c'est un truc que je vis très bien.
C'est chouette. Les projets, on va évidemment évoquer tout ça. Le premier album appartient au public depuis maintenant quasiment un an. J'imagine que la suite se prépare petit à petit. Il y a La Cigale qui va être, j'imagine, une scène qui va être marquante. Pour toi, le 5 février 2025, la tournée va continuer évidemment tout au long de cet automne aussi et l'hiver prochain. Donc il y a encore beaucoup de rendez-vous avec le public qui t'attendent.
Ouais, bah c'est le rêve encore une fois hein, quand je vois ce planning et que je me dis que tout continue comme ça, qu'il va y avoir de nouvelles dates, évidemment, il y a aussi de nouvelles chansons qui continuent de germer doucement dans ma tête.
Tu composes tout toi-même, l'album Miroir, c'est vraiment tout toi.
J'ai en tout cas toujours soit écrit, soit coécrit, soit composé et co-composé. Il y a aucune chanson qu'on m'a envoyée. J'ai toujours été à l'initiative des chansons. C'est des choses que je voulais raconter. Après, j'ai la chance de bosser avec plein de musiciens, de réalisateurs de talent.
J'imagine qu'il y a plein de chanteurs qui te demandent des textes aujourd'hui, un peu d'écrire pour eux aussi.
Bah, c'est vrai que le copain Pierre m'a quand même bien aidé à ce niveau-là. Après, cet exercice-là, c'est une rencontre. Donc, au-delà des messages que je peux recevoir et tout, moi, c'est surtout continuer cette expérience que j'ai pu vivre avec Pierre, qui était d'écrire avec un pote. Et j'ai pas, en fait, cette capacité qu'ont d'autres auteurs de répondre à distance pour l'instant. On peut pas me dire, il faut une chanson pour tel artiste et je l'envoie. Moi, j'ai besoin d'être avec la personne en studio et puis qu'on parle, qu'on cherche ensemble, qu'on se découvre ensemble. Mais j'ai eu la chance de faire plein de chouettes sessions depuis et c'est cool.
Ce talent d'écriture aussi, j'ai l'impression que plus ça va, plus il est reconnu chez toi. Tu me fais penser un peu à Pascal Obispo dans ses débuts.
Eh ben écoute, ça fait plaisir.
C'est vrai qu'il a écrit pour tellement de monde derrière après.
Écoute, ça, il fait partie, ouais, de avec Goldman, des deux références que je peux avoir à ce niveau-là, de gens qui ont réussi à la fois à faire connaître leurs chansons et qui ont eu à la fois cette chance de pouvoir écrire pour beaucoup de gens. Moi, c'est deux exercices que j'adore, qui sont totalement différents, mais que j'aime vraiment les deux tout autant.
On peut te souhaiter quoi maintenant, Joseph ?
Que ça continue, hein. Que ça continue, que je me réveille jamais.
C'est quoi la plus belle scène que tu rêverais là ? Que t'as pas encore foulée ?
La prochaine.
Bah voilà, ça c'est beau. Justement, on a écouté Beau, on a écouté Celui qui part juste avant que t'arrives. Elle est pas mal celle-là. On va te laisser choisir le nouveau titre de l'album que tu as envie qu'on écoute maintenant.
Et bah le dernier, Ton regard.
Ton regard, eh bien on va écouter Joseph Kamel. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Joseph, pour cette rentrée exceptionnelle que tu vis avec nous en ce 2 septembre. On est très heureux en tout cas de t'avoir reçu. On a bataillé, mais on est content d'y être arrivé avec toi. Et puis on se dit à bientôt. On va évidemment, en tant que parrain de l'émission, suivre tous tes titres tout au long de l'année qu'on diffusera dans notre émission. Ça, c'est sûr et certain. Et puis on reste en contact. Merci infiniment.
Merci beaucoup. À très vite.
À bientôt.
Au revoir.
Je sais que tu seras belle, je sais que tu rendras le monde plus fort. Dis comment tu t'appelles, ma fille qui n'existe pas encore. J'ai du temps devant moi, avant toi, pour apprendre ce que j'ignore. 10 ans avant que tu viennes, le monde n'est pas le plus beau des décors. Mais dans ton regard, il y aura ce que les autres n'ont pas. Pour le voir, je donnerai tout ce que j'ai déjà. Tu peux me croire, avant même que tu sois avec moi. Quelle que soit notre histoire, je serai fier de la voir. Si on a la nouvelle qu'on a gâché le plus beau décor, même si c'est sans appel, sache que je t'appellerai encore. Et je serai toujours là, à chaque fois que personne ne sera d'accord. Pour te laisser tes ailes, faudra couper les miennes d'abord. Dans ton regard, il y aura ce que les autres n'ont pas. Pour le voir, je donnerai tout ce que j'ai déjà. Tu peux me croire, avant même que tu sois avec moi. Quelle que soit notre histoire, je serai fier de l'avoir. Ce qu'on a fait, tu peux encore le changer. Et quand je m'endors, moi je rêve que tu viennes tout déranger. Et qu'on espère encore. Dans ton regard, il y aura ce que les autres n'ont pas. Pour le voir, je donnerai tout ce que j'ai déjà. Tu peux me croire, avant même que tu sois avec moi. Quelle que soit notre histoire, je serai fier de la voir. Ce qu'on a fait, tu peux encore le changer. Dans ton regard, ce qu'on a fait, tu peux encore le changer. Dans ton regard, toi notre histoire. Je serais fier de la voir.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Faut que tu m'aimes, car moi toute seule, j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, faut que tu la trouves jolie ma voix et mes poèmes. Quand même, faut que tu m'aimes, faut que tu gardes ta main dans la mienne quand je suis blême. Dis-moi que ça va le faire et qu'il y aura pas de problème, que la lune est pleine. J'ai toujours besoin qu'on me valide, qu'on me trouve sympa, qu'on me trouve sublime. J'ai peur des avis, des cœurs qui s'abîment, de plus être dans le coup. J'ai peur de plus être la même, que tu me jettes pour la prochaine venue, que je sois plus qu'une inconnue. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, sinon je perds pied. Je sais plus où aller, ni comment je m'appelle. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, c'est n'importe quoi. Faut que tu m'aimes plus fort que moi-même, plus fort que moi-même. Faut que tu crois plus en moi-même que moi. Faut que tu m'aimes, sinon j'ai le cœur qui est pas tranquille. Faut que tu m'aimes, quand je sais même plus comment je m'habille, comment je m'anime, que j'hiberne. Faut que tu m'aimes, quand je crois plus à ce que je fais. Faut que tu m'aimes, quand j'ai l'impression de tout rater. Faut que tu m'aides, quand je me sens comme une merde. J'ai peur de plus être la même, que tu me jettes pour la prochaine venue, que je sois plus qu'une inconnue. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, sinon je perds pied. Je sais plus où aller, ni comment je m'appelle. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, c'est n'importe quoi. Faut que tu crois plus en moi-même que moi. Pourquoi je remarque les pouces en bas, les mauvais démons? Pourquoi j'entends pas bien quand tu dis c'est bon? Pourquoi j'entends c'est nul quand tu dis c'est super? Super. Pourquoi j'attends toujours l'autorisation? Pourquoi y a pas de confiance dans ma maison? Pourquoi je cherche toujours à plaire? Dis-moi que toi aussi t'es comme ça. Toi aussi t'es comme ça. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, sinon je perds pied. Je sais plus où aller, ni comment je m'appelle. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, c'est n'importe quoi. Faut que tu m'aimes plus fort que moi-même, plus fort que moi-même. Faut que tu crois plus en moi-même que moi.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, pour cette rentrée télé, évidemment, c'est grand retour de Scène de ménage, hein, déjà sur M6, pour notre plus grand plaisir. Écoute, c'est un rendez-vous annuel maintenant que l'on se donne avec mon ami Fred Bourali, qu'on a grand plaisir à retrouver et que, évidemment, vous adorez, évidemment, dans son rôle de José. Frédéric Bourali, bonjour.
Bonjour, je suis très content de vous retrouver.
Écoute, c'est un rendez-vous maintenant quasi annuel qu'on se donne à la rentrée comme ça pour évoquer tous tes projets, parce qu'il y en a tellement entre théâtre, cinéma, télévision, ça fourmille pour toi. Mais évidemment, je crois que José est tellement ancré en toi. José et Liliane, c'est un des couples emblématiques de la série depuis le tout début, presque 15 ans. C'est dingue.
En fait, je me rends pas compte du temps qui passe, parce que comme on tourne pas beaucoup et que Valérie tourne que 2-3 jours par mois, mais en fait, je me rends compte avec mes enfants. Parce que je me dis, merde, il y a 15 ans, mes enfants, ils avaient tel âge. Maintenant, c'est salopard, ils font 1m86 et ils sont très grands. Et c'est comme ça que je me rends compte du temps qui a passé. Mais nous, avec Valérie, on se rend pas bien compte, en fait. Puis c'est un tel bonheur, de toute façon, à chaque fois qu'on se retrouve. Et là, la rentrée, là, ça s'annoncera bien. Là, on a un mois de septembre qui va être assez intense.
Caustique, vous vous amusez toujours autant, tous les deux, avec Valérie. Et on le sent, maintenant, vous vous connaissez par cœur, c'est du tac au tac. Est-ce que ça permet de gagner du temps? Est-ce que ça vous permet de gagner en confiance, vous aussi, tous les deux, tellement vous vous connaissez maintenant dans le travail?
Non, c'est-à-dire que c'était la première seconde qu'on s'est rencontrés il y a 15 ans. C'est pas plus maintenant que à la première seconde. Mais vraiment, c'est ça. C'est comme appelons ça un coup de foudre artistique. C'est ça. C'est pas un coup de foudre amoureux. C'est un coup, enfin, amoureux de la comédienne. Mais voilà, c'est vraiment un vrai coup de foudre artistique et ça n'a jamais baissé depuis. Alors, on continue à se faire rire. On continue à se surprendre. On continue à inventer. Mais c'est merveilleux. C'est un truc. Je souhaite ça à tous mes amis acteurs et actrices. Je leur souhaite tous de vivre ce que je vis parce que c'est vraiment exceptionnel.
Et puis il y a un nouveau Prime en préparation aussi, ça c'est quand même la bonne nouvelle qu'on pourra découvrir sur M6 en fin d'année ou en début d'année prochaine. Ça aussi c'est un rendez-vous attendu par des millions de fans.
Oui, c'est toujours un bonheur ça, on sait que les gens nous attendent là-dessus, mais en plus pour nous les Primes c'est le seul moment où on tourne pas en studio, donc ils nous font jouer dans la cour, ils allaient jouer dehors. Alors des fois, alors c'est génial, on avait tourné à La Réunion, je me souviens, on avait tourné pas loin de La Rochelle, on avait tourné à Royan, et là le Prime là qui vient. Franchement, quand on a commencé à lire les textes avec Valérie, ma camarade qui fait Liliane, on a beaucoup ri. Mais je n'en dis pas plus.
On va pas savoir où il vous emmène pour l'instant.
Il nous amène là où il faut nous amener.
C'est bien dit ça, bravo, franchement. Alors, évidemment, José, c'est aujourd'hui un personnage ancré dans la mémoire des Français. Tu peux plus faire un pas dans la rue sans qu'on t'appelle José. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te gêne ou pas, qu'au lieu de t'appeler Frédéric, des fois on t'appelle José?
Non, on m'appelle Frédéric, on m'appelle José, tout va bien. Moi, on peut m'appeler Marie-Sophie, je m'en fous, hein, d'ailleurs. On peut m'appeler ce qu'on veut, tant que les gens sont gentils avec moi. Non, tout est merveilleux. De toute façon, être un acteur populaire comme ça, c'est une chance extraordinaire. C'est un cadeau de la vie. C'est en aucun cas un inconvénient. Et puis, si ça me plaît pas, j'ai qu'à faire notre métier, hein. Non, c'est merveilleux. Vous savez, en plus, les gens nous disent merci dans la rue. Donc en ce moment, avec la période difficile qu'on vit, il se passe des trucs dans le monde quand même. Que les gens dans la rue viennent me dire merci, c'est extraordinaire. Moi, merci de quoi? Moi, je ne suis pas chirurgien, je ne sauve pas des vies, je fais au mieux mon travail. Mais
pendant tu leur fais oublier leurs soucis l'espace d'une demi-heure tous les soirs. Ça, c'est important. Vous vous en rendez compte, ça, de cette importance que vous avez dans le quotidien des Français, de leur amener cette bulle d'air dans ce contexte quand même morose, on peut le dire.
Ouais, c'est ce que les gens nous disent en tout cas. Voilà, c'est ce que je m'apprêtais à dire. C'est-à-dire qu'ils nous regardent aussi parce qu'ils ont besoin de changer la vie. C'est fait pour ça aussi. Pas que, mais c'est aussi fait pour ça. Et ça, franchement, c'est génial de pouvoir rendre ce service-là. C'est une sorte de mission en fait. Dans cette période trouble qu'on a sur Terre. C'est une sorte de... Mais c'est vrai, des fois avec Valérie, on se dit ah ouais, c'est pas rien de faire rire les gens en ce moment. C'est quelque chose de pas si évident. Et j'en suis très fier, très heureux.
Et c'est un cadeau que vous nous faites tous les soirs, en tout cas, de continuer à nous faire rire autant. Et puis, sur scène aussi, tu nous fais beaucoup rire, évidemment. Alors, il y a eu Les Darons qui a eu une tournée des Zéniths absolument sensationnelle tout au long de la saison dernière. Mais je crois que tu as encore de beaux projets pour cette saison qui arrive, hein, ça n'arrête pas.
Bah, c'est-à-dire que Les Darons, là, on reprend une tournée, là, en septembre. On démarre, justement, en septembre, voilà, jusqu'à la fin de l'année. Et on va même finir au Folies Bergères à Paris au mois de décembre. Donc, c'est assez extraordinaire. Mais j'ai aussi d'autres projets au théâtre assez extraordinaires. Vraiment, je suis très heureux de ça. J'ai écrit un spectacle autour de Pierre Perret, où je serai seul sur scène. J'ai rencontré Pierre Perret pour ça, et qui adore le projet. Donc, bon, il est formidable. C'est pas un biopic, c'est un spectacle autour de Pierre Perret. Je raconte l'histoire d'un personnage, et sa vie, et il y a des chansons qui sont des révérences dans l'histoire. Et je chante, je vais jouer la guitare, bien sûr, parce que comme je joue la guitare, on entendra Pierre Perret. Enfin, voilà, j'ai redécouvert l'auteur, le grand auteur que c'est. Cet homme merveilleux, voilà. Et puis j'ai un autre spectacle avec Éric Logérias aussi, qui va s'appeler Les Grands Enfants, qu'on va essayer de monter l'année prochaine, là en 2025 aussi. J'ai un autre projet aussi avec Marie-Vincent, voilà. J'ai un autre. Non,
mais, ouais. On a vu tout l'été, non, en famille.
Ouais, il y a ça, j'ai d'autres projets de tournage aussi. Enfin, oui, je suis un peu occupé.
Voilà. Ça n'arrête pas, en tout cas, les Darons repartent en tournée. Scène de ménage, c'est reparti sur M6. Ça n'arrête pas. En tout cas, c'est un comédien bien occupé qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui, encore une fois, pour cette rentrée. Merci, mon cher Fred. Et puis, on se dit à bientôt.
C'est moi qui te remercie. Je remercie tout le monde. Salut, à bientôt.
Top départ de la nouvelle saison de Scène de ménage.
Eh oh, Pipo et Molo là.
Disgusting.
Scène de ménage, nouvelle saison.
T'es un fragile en vrai, hein.
Mais si, t'es un fragile.
Lundi à 20h30 sur M6 et en streaming sur M6+.
Allez, notre coup de cœur, il va à La Stagiaire qui fait son grand retour pour une 9e saison inédite. Déjà, presque 10 ans. Et c'est la première fois, depuis 9 ans qu'on les a tous les deux ensemble et on en est très fiers. Michel Bernier et Antoine Hamel sont avec nous. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
On vous soutient depuis le début de cette série. Mais franchement, est-ce que vous pensiez que 9 ans plus tard, vous seriez encore là dans vos plus beaux rêves, tous les deux?
Bah, on imagine toujours le meilleur, mais on imagine aussi le pire. Donc non, on peut pas savoir. C'est ce qui fait la saveur des choses aussi dans notre métier, c'est que on les fait en se disant bon, moi ça me plaît, j'ai envie, je suis heureuse, mais voilà, est-ce que les gens vont partager le même bonheur que moi? Et puis bah, il s'avère que oui, depuis maintenant toutes ces années, ça veut dire qu'on a bien travaillé.
Antoine, ça fait combien d'années toi? 7, hein, je crois. Cette année, parce que c'est Harry qui a démarré, si je me souviens bien.
Exactement, moi je suis arrivé à la saison 2, donc là ça va faire 8 ans. Ouais.
Déjà, c'est beau. Hein.
Oui, c'est beau, et surtout que moi on m'avait proposé le casting, je savais que c'était pour une année. L'idée c'était de changer de juge chaque année, parce que comme Michel était co-stagiaire, donc elle change de juge, et c'était la logique. Et donc j'ai été encore plus heureux d'apprendre qu'il voulait me proposer de rester pour d'autres saisons, et puis qu'effectivement ça dure depuis autant de saisons, c'est très réjouissant, oui.
Michel, c'est le stage le plus long qui va pouvoir être inscrit dans le Guinness Book, finalement.
Absolument. Et je sais, alors moi, c'est mon record à moi. Voilà, j'en ai pas beaucoup, mais celui-là, j'y tiens beaucoup. Non, mais c'est vrai que ça fait partie de la sève de la série. C'est que, d'abord, dans l'histoire de Constance, elle change de vie, elle décide de reprendre ses études, voilà, de devenir juge d'instruction. Donc, au départ, elle devient une stagiaire. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que je me suis dit, ça fait partie de quelque chose qui est dans l'air du temps. Maintenant, on sait bien qu'on vivra plus 50 ans ou 30 ans dans la même boîte, on fera pas le même métier toute sa vie. Je trouve que ça va avec cette modernité-là. Et surtout depuis le confinement, où plein de gens se sont dit « mais en fait, je m'ennuie dans mon métier, je m'ennuie dans ma vie, pourquoi j'oserais pas faire autre chose ? Après tout, rien n'est dans le marbre. » Et donc, moi, je trouve ça très moderne. Alors, mon petit côté féministe aussi, c'est qu'en plus, elle a un mari qui l'a suivi. C'est-à-dire qu'il a, lui, vendu son olivret pour la suivre dans cette folie tout d'un coup de reprendre des études, etc. Quitte à ce que lui, ben, se retrouve un petit peu comme ça, dans un flou de travail. Et moi, j'aime beaucoup cette série pour ça, parce que je la trouve extrêmement moderne. Et puis, par rapport au fait qu'elle se retrouve avec un juge plus jeune qu'elle, les générations, qu'est-ce qu'on se raconte, l'expérience qu'on a, lui, c'est mon chef. Normalement, ça devrait être le contraire, puisqu'au début de la série, on rigolait beaucoup avec ça, parce que les gens pensaient que c'était moi la juge et lui le stagiaire. Donc, voilà, c'était drôle.
Bah oui, c'est vrai que cette rencontre entre vous deux, ça matche tellement bien. C'est certainement pour ça aussi, Antoine, que mine de rien, le juge Delcourt est resté aussi, parce que ça matche super bien tous les deux.
Ah oui, tout à fait. Ça c'était la surprise, on va dire, parce que quand un casting est fait, après on ne sait pas comment ça va fonctionner, surtout sur la longueur. Et là, effectivement, c'était un vrai plaisir de voir qu'on s'entendait très très bien et que on n'avait qu'une envie, c'était de continuer, clairement. Et c'est vrai que le fait que le personnage Michel soit stagiaire, tu m'avais dit, et c'est vrai que c'est une position où ce personnage-là, il a pas le poids que le juge va avoir, le poids de d'une enquête qui doit être faite dans les règles et tout ça. Elle peut se permettre d'avoir cette liberté. Ça, je pense que c'est vrai que c'est très bien pour la série, parce que ça permet de faire des choses nouvelles ou d'avoir des libertés d'écriture. Et puis pour le personnage du juge, c'est lui qui est assez dans des clous, on va dire. Et ben c'est intéressant pour lui de qu'il soit bousculé un petit peu. Je pense que ça lui fait du bien.
Il faut qu'il y ait des antagonismes, justement, dans les héros et dans les duos. C'est comme ça que ça fonctionne aussi très, très bien. On va écouter un petit extrait. On revient juste après avec vous. On va rentrer un petit peu dans le cœur de cette saison 9, sans trop non plus, évidemment, pour ne pas trop spoiler aux téléspectateurs. Mais on va en parler juste après ça. On écoute.
Ah, inédit. Parfois, je rêve d'un monde où on vivrait dans le calme et la sérénité, sans courir du matin au soir.
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du
Michel
monde.
Michel Bernier revient pour une nouvelle like saison inédite.
Qu'est-ce que t'en dis?
Ça ferait du bien à tout le monde.
La stagiaire.
On y va, monsieur le juge.
Vous allez adorer la retrouver. Mardi à 21h10 sur France 3 et sur la plateforme France.tv.
Oui, bien.
Alors, on peut dire qu'il va s'en passer des choses dans cette 9e saison et Constance va se poser beaucoup de questions. Où tout ça va l'amener? Est-ce que ça vaut le coup de continuer voilà, travailler? Est-ce qu'elle aurait pas envie, justement, de prendre un peu une pré-retraite? Elle va hériter d'une maison en Espagne, entre un nouveau chéri pour sa fille, l'arrivée d'une chèvre. Bref, tout va être bousculé dans la vie de Constance, là.
Oui, alors, on va, tout est dans le bon ordre. La part était d'une chèvre et tout ça. Non, non. Non, mais c'est vrai que là, nos scénaristes ont fait fort parce que ils ont mis un peu les personnages une situation un peu de bilan, un peu de où est-ce qu'on en est de notre vie chacun, et l'héritage de cette maison en Espagne pour les meilleurs, tout d'un coup c'est le questionnement quoi. C'est pas une maison de vacances, et si ça devenait notre maison, et si on quittait tout, les enfants sont grands, ils font leur vie, etc.
Il vaut mieux pas profiter de la vie que de continuer à travailler. C'est aussi la question que beaucoup se posent, hein.
C'est pour ça que je dis que les auteurs ont bien réagi là-dessus, c'est que effectivement, on a bien vu avec toutes les manifs qu'il y a eu pour la retraite, machin, etc. Il y a ceux qui veulent continuer à travailler jusqu'à ce que mort s'en suive, ceux qui veulent finir de travailler de bonne heure. C'est un vrai questionnement, cette histoire de retraite. C'est pas simplement une histoire, je dirais, financière. C'est aussi une histoire dans la tête. C'est que quand aujourd'hui on sait qu'on va vivre au moins jusqu'à 100 ans, qu'est-ce qu'on fout de 60 à 100, qu'il reste quand même des années à vivre, et donc qu'est-ce qu'on fait de tout ce temps-là? Et je pense que là, à partir du moment où il découvre cette possibilité-là, évidemment le questionnement arrive. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on ose? Est-ce qu'on n'ose pas? Alors pour Barthes, il y a un côté, je dirais, après tout, il en avait marre de la mairie, marre d'être un peu mal considéré dans son travail. Et pour Constance, il y a est-ce que j'ai pas fait le tour? Est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'on profite de nous deux? Voilà. Puis après, il y a la problématique sur je juge dès le cours, qui est aussi un bilan quelque part. Donc c'est un peu la saison. Qu'est-ce qu'on fait de nous?
L'avant-dixième, quoi.
Oui, c'est ça, avant-dixième. Mais c'est des questions qu'effectivement tout le monde peut se poser et qui sont saines, qu'il faut se poser, de pas avoir de regrets. Là, pour le juge Delcourt, c'est vrai que lui, il a sa passion, il va se découvrir une passion qui va prendre de la place sur sa partie de juge. Mais en même temps, c'est une vraie passion, donc ne pas la vivre, ce serait très douloureux. Donc il faut le faire, mais après, c'est vrai que c'est une histoire d'équilibre, et c'est à ça qu'il va être confronté. On peut tous être confrontés à ça. Ouais.
Alors, il y a des fils rouges, il va y avoir des enquêtes, hein, évidemment, comme d'habitude dans Un Stagiaire. Il y a 6 épisodes pour cette saison. On sait qu'une 10e est déjà, en tout cas, sur les rangs. Donc, on sait déjà que La Stagiaire fêtera ses 10 ans. Donc, ça, c'est un beau cadeau, évidemment, toujours pour une équipe de série.
Ah oui, ça a 10 ans, c'est même assez miraculeux que ça puisse durer aussi longtemps. Et c'est grâce à beaucoup de choses, mais notamment au public qui est fidèle à cette série, même dans les rediffusions, c'est incroyable qu'il soit toujours présent. Et c'est vrai que ça, forcément, ça a un poids important, que la chaîne nous suive, que la production soit toujours aussi enthousiaste à l'idée de continuer, et que les techniciens, ils aient toujours, parce que depuis au fur et à mesure des années, vous pouvez imaginer bien qu'il y a beaucoup de gens qui font partie de cette série, qui partent de temps en temps, mais on a un socle aussi dans la technique et qui aiment cette série et qu'on retrouve avec plaisir. Et pour cette saison 10, ils seront tous là, donc on est ravis de les retrouver.
Alors justement, sur une équipe de série, c'est rare de pouvoir rencontrer son public. Et c'est le cas à des festivals, comme au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle, où souvent vous pouvez voir votre public, ou alors vous avez fait aussi un bain de foule, par exemple, au printemps dernier à Série Mania. Qu'est-ce qu'ils vous disent le plus souvent? Quels sont les compliments qui reviennent le plus, qui vous touchent le plus, peut-être, tous les deux? Michel?
D'abord, de sentir que ils sont très très attachés au personnage. C'est ce qui fait le plus plaisir, je trouve. Qu'ils connaissent bien les personnages, ils savent bien ce qui nous est arrivé. ils sont avec nous. En fait, c'est comme s'ils suivaient la vie de leurs voisins. Enfin, je sais pas, quelque chose de très, et beaucoup de tendresse aussi dans les rapports qu'on a avec les téléspectateurs. Une complicité, et puis maintenant une transmission, c'est-à-dire que maintenant on a les mamans qui font découvrir la série à leurs filles ou à leurs fils. Enfin, on sent quelque chose de comme un lien qui se crée même à l'intérieur des familles et de téléspectateurs, quoi. Et puis beaucoup de gentillesse pour nous, et puis surtout ils aiment notre tandem, ils aiment cette façon qu'on a de travailler et de leur faire passer nos émotions, et donc non, mais c'est franchement toujours très agréable.
Ce qui doit vous marquer aussi, c'est que des fois vous avez des fans qui vont vous sortir des choses que vos personnages ont vécues, que même vous avez oublié des fois en les jouant, et que eux n'ont pas oublié. Ça doit être quelque chose d'assez particulier quand même à ressentir.
Mais oui, c'est vrai, parce que ce qui est très impressionnant, je trouve, c'est le numéro des épisodes. Parce que mine de rien, on en est, quand on reçoit des scénars, il y a marqué 60, on se dit, waouh, on a fait autant. Donc c'est vrai que on s'en rend pas compte, mais il y a effectivement beaucoup d'épisodes, beaucoup d'histoires. Et comme les gens, lorsqu'ils voient la série, ils aiment repartir du début. Donc ils ont une fraîcheur de la série que on n'a pas forcément. Donc c'est vrai que ça nous rappelle des choses et c'est assez agréable d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Si on faisait un quiz sur la série, je pense qu'il serait meilleur que nous.
Ouais. Ça, elle est bonne celle-là. Bon, en tout cas, on vous retrouve dès demain pour une toute nouvelle saison inédite de La Stagiaire. C'est la saison 9. On pourra presque l'appeler en attendant la 10e, hein, qui viendra l'année prochaine. En tout cas, je sais que vous êtes déjà à pied d'œuvre pour nous la tourner. Donc merci en tout cas infiniment Michel, merci Antoine d'avoir passé ces quelques minutes avec nous pour le lancement de cette nouvelle saison inédite. À bientôt.
À bientôt, merci.
Vive La Stagiaire.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coups de cœur télé consacrés à l'éclipse qui débarque mercredi sur France 2, la série événement de la rentrée avec Claire Keim et Anne Charrier qui est avec nous en ligne. Bonjour Anne.
Bonjour Alain.
Merci d'être là. On va évidemment vibrer, on va ressentir plein d'émotions avec cette série, avec plein de mystères, des paysages absolument magnifiques du haut plateau de l'Aubrac à Bozoul. Bozoul va être le théâtre en fait de bien des mystères lors d'une éclipse. Et puis évidemment, la maman que tu joues et gendarme du village Manu va être au cœur de ce drame qui va impliquer ton fils dans cette histoire lors de l'éclipse, puisqu'il va tirer avec ton arme de service accidentellement sur sa petite amie et elle va disparaître pendant l'éclipse. Évidemment, ça va emmener tout plein de mystères, déterrer des conflits d'intérêts, des secrets de famille. C'est la campagne paysanne dans toute sa splendeur qu'on va découvrir. C'est ce qui t'a plu ?
Oui, ça participait. Il y avait déjà un personnage, il y avait un parcours très intéressant parce que Manu, c'est un personnage en retrait, en fait, c'est mis en retrait de la vie, qui est un personnage blessé. Donc, on la prend à ce moment-là, au moment où elle patine, elle n'arrive pas à remonter. Et c'est aussi la raison pour laquelle son fils va tomber sur son arme de service et qui va se sentir capable de se dire « Ah tiens, on joue avec », alors que, voilà, j'imagine qu'elle n'était pas cette femme-là. 2 ans auparavant, mais et puis il y a moi, comme tu sais, je suis charentaise, j'ai grandi à la campagne et ce milieu paysan, c'est celui de mes grands-parents aussi. Ça me parle beaucoup la façon dont évolue le milieu agricole aujourd'hui. Je pense qu'on est tous concernés.
Mais oui, et c'est vrai que les paysages sont magnifiquement mis en scène par Franck Brett aussi, hein, qui met en scène cette série. C'est vraiment très très beau, les images d'éclipse et tout sont très belles.
Alors effectivement, Franck Brett a fait un travail extraordinaire sur l'image et sur les paysages, ils donnent un souffle à sa réalisation. On embrasse comme ça les plateaux de l'Aubrac. C'est splendide, hein. Moi, c'est une région que je découvrais. Bozoul, le trou de Bozoul, qui est quand même un phénomène géologique que je ne connaissais pas, moi, mais qui est spectaculaire et très très beau, particulièrement cinégénique. Et il a fait de ces grands espaces quelque chose d'extraordinairement étouffant, parce qu'on sent bien que cette micro-société, elle étouffe de l'intérieur. Il y a pas, cet événement va révéler tout ça, mais on comprend très vite que il y a pas que ça en fait.
Le casting, il est fou, hein.
Il est bien, hein.
Ah ouais, franchement, Claire Keim, Armel Dodge, Thomas Jouanné qui jouent en couple en plus,
non,
là, c'est
Armel
assez
Dodge,
drôle.
Thomas Jouanné, enfin bien sûr Claire Keim, mais bien sûr Claire fait un super boulot, mais Armel Dodge, Thomas Jouanné, moi j'ai trouvé le duo particulièrement bouleversant. De toute façon, leur parcours est bouleversant. Et puis Hubert Delattre, et puis tous les jeunes, Victor Poirier, Émeric Fougeron,
Christine
Lacroix, je vais pas tous les citer, mais ils sont merveilleux.
Ah oui, non mais c'est clair que franchement on va pas s'ennuyer et puis on va découvrir plein de mystères au fur et à mesure parce que c'est 6 fois 52 minutes. Donc ouais, J'imagine qu'on va dérouler au fil des semaines et qu'on va déterrer tout plein de mystères dans chaque épisode.
Ouais, on avance sur tous ces on-dit en fait qui scellent cette communauté, tout ce qui les empoisonne. En fait, on avance là-dessus, c'est-à-dire que chaque suspect est suspecté parce que on comprend qu'il y a plein de dysfonctionnements.
Mais oui.
On commence par une grande fête de village où tout le monde est réuni. Il y a une forme de liesse populaire et puis d'un coup, dès que le vernis craque, tout part à volo.
Il y a une scène pour toi particulière ou pas ?
Ben moi, j'aime beaucoup la scène des jeunes au début. Le mystère autour de la disparition de Nour et puis
ouais,
et puis la découverte aussi de ce qui est devenu Nour. C'est vrai que j'avais pas réfléchi à ça, mais je pense que ma scène préférée, c'est la scène qui clôt l'épisode 2 où on comprend ce qui est devenu Nour. Où on est comme ça dans un truc un peu américain avec un couple qui s'embrasse dans une voiture et puis on comprend où elle est.
Et ça, pour le voir, ça sera mercredi en fin de soirée.
Voilà, exactement. Ouais.
À la fin de l'épisode 2. T'as passé un beau moment là-bas. Est-ce que des fois, alors toi t'es habitué à la campagne, mais pour certains comédiens, ça peut des fois passer 3 mois comme ça sur l'Aubrac, un peu éloigné de tout. Est-ce que ça fait du bien, justement?
Mais c'était extraordinaire. Et alors, en plus, c'était d'autant plus surprenant que moi, l'isolement, comme ça, l'éloignement de ma zone de confort, j'en ai très envie, toujours en théorie. Et puis, quand on arrive au pied du mur, je peux paniquer un peu. Je me dis, ah, je vais avoir froid, ça va être dur. Enfin, bon, bref. Et en même temps, j'ai envie, hein, mais bon, je suis très humaine. L'Aubrac, c'est juste extraordinaire. C'est très, très beau. Les gens sont charmants et on a eu la chance d'avoir une équipe, et ça c'est beaucoup dû à Franck, une équipe tellement soudée qu'en fait c'était un petit tournage et tout le monde a fait corps pour qu'on puisse faire les plus belles images possibles pour raconter cette histoire. Et vraiment je tiens à louer le travail de cette équipe merveilleuse. On avait une chef-op incroyable, Magali Sylvestre de Sassy, qui est fantastique, qu'on mettait n'importe où avec sa caméra de je sais pas combien de kilos. Parfois, on la voyait, elle était dans un coin, cachée derrière un mur, dans une position extraordinairement inconfortable. Mais voilà, tout le monde était là pour faire le meilleur boulot possible. Ça a été un tournage très heureux.
Est-ce que, pour le coup, moi, j'ai pas vu la fin. Et évidemment, je me suis laissé le suspense aussi. J'ai pu voir les épisodes qui vont être diffusés mercredi. Est-ce que c'est totalement bouclé? Ou est-ce que...
Oui, c'est totalement bouclé.
C'est totalement bouclé, donc il n'y a pas d'ouverture possible. On est vraiment là sur une mini-série, hein. Du coup.
Ouais, on est sur une mini-série, ouais.
On va avoir toutes les réponses à nos questions dans deux semaines.
En même temps que tu me poses la question, je m'interroge, mais je vois pas non comment on pourrait rebondir là-dessus.
Bon, on va te retrouver en tout cas. Dans l'éclipse. Ben oui, parce que les éclipses, il y en a pas beaucoup, hein, c'est rare. Hein.
Voilà. Là, il faut ce décor-là, il faut ces personnages-là pour que la série existe.
Bon, on te verra également dans le film d'Antoine Garceau, Les Cœurs, bientôt.
Absolument, très joli film.
À découvrir prochainement.
Et dans Natacha, presque hôtesse de l'air, ouais. Le film de Noémie Saglio qui sortira au printemps.
Oui.
Avec Camille Lou, avec qui je tournais déjà dans Maman à tort. Donc ça, c'était très heureux.
Ouais.
Donc voilà, c'était une belle année. Et puis dans Daryl Dixon, The Walking Dead, The Book of Carol, qui sort en octobre sur Paramount Plus.
Bon, à découvrir bientôt, Anne Charrier. Voilà. En tout cas, c'est déjà dans l'éclipse. Ça sera donc mercredi.
J'ai un peu saoulé qu'on actualise.
À 21h10 sur France 2. Tu sais qu'on est toujours très heureux de t'avoir. Donc, franchement.
Ouais, merci.
Et on sait que tu fourmilles de projets. Donc, voilà, on essaie d'être là régulièrement à tes côtés, en tout cas.
Bon, et à très bientôt, Alain.
À très vite. Merci, Anne.
Au revoir.
On se quitte avec tout de suite la bande-annonce. C'est parti.
C'est l'arme de ta mère ?
Une disparition.
Arrêtez ! Il a trouvé quelque chose !
Ah ! Aux répercussions incontrôlables.
Le plus important, là, c'est de la retrouver.
L'éclipse, avec Anne Charrier et Claire Keim. Bientôt sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook, chut, on écoute la télé.
J'avais dessiné sur le sable, son doux visage qui me souriait, puis il a plu.
Plus de peine.
retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé. Chute on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre invitée aujourd'hui, Eliorissa, qui est avec nous, qui joue le rôle de Thelma dans Ici, tout commence, et qui, depuis déjà maintenant plusieurs mois, a fait son arrivée dans la série. Bonjour Eliorissa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors ça y est, enfin, Thelma va intégrer ce fameux institut Auguste Armand. C'était pas gagné au départ, parce que là, c'est la jeune fille libre sous tous ses aspects. Hein. Cache, rentre dedans, qui de toute façon s'affranchit un peu de toutes les règles. Et c'est ça qui est hyper drôle à jouer, j'imagine, pour toi.
Ouais, mais en fait, c'est très marrant parce que tous les personnages, quand on rencontre les acteurs dans la vraie vie, on se rend compte qu'il y a beaucoup de soi dans le personnage et que juste après... Le personnage va exacerber une partie de ça. Donc Thelma, je me reconnais beaucoup en elle. Après, je suis pas fille de milliardaire, super spontanée.
Donc le yacht.
Oui, il manque peut-être le yacht, la voiture, le permis aussi, du coup. Mais c'est super fun à jouer. Là, c'est vrai que les premiers épisodes, on essayait de voir un peu son côté superficiel. Plus on avance, plus on va voir que, elle en a dans la tête et qu'elle est comme ça pour une certaine raison, etc.
Après, c'est pas hasard si elle intègre quand même l'institut, parce qu'on a pu voir quand même avant l'été qu'elle avait, mine de rien, peut-être un vrai talent, voire presque inné pour la cuisine.
Parce qu'en fait, Thelma, c'est pas comme les autres élèves où elle a fait l'école, où elle a appris, etc. Elle a fait tout de son côté et elle adore recevoir. Elle adore recevoir pour 15-20 personnes. Donc,
Faire plaisir,
elle c'est ça. Elle fait plaisir par la cuisine. C'est pas quelque chose où elle se dit je dois être excellente, je dois réussir des concours ou quoi. Juste elle le fait par plaisir et puis elle se retrouve là par hasard pour à la base juste observer les cours. Finalement elle tombe amoureuse de l'école et de la cuisine. Et elle se retrouve à passer le concours, à le réussir, à rentrer dans l'institut. Et pour la suite j'espère que ça va continuer à aller encore mieux pour elle.
Elle a fait tourner la tête des garçons quand même aussi, hein.
Ça, oui, dès qu'elle est arrivée. Il en faut bien une un peu pour...
C'est un peu le miel et les abeilles au début.
Mais oui, rajouter un peu de peps, tu as réveillé un peu tout. Un peu de solaire dans la série, parce qu'il y a beaucoup de drames tout le temps, tu vois.
Ah, ça a bien réveillé Solal.
Ouais. Bah oui, il était un petit peu coincé.
Donc, Bichon.
Bah oui, mais c'est pour ça aussi que Thelma est arrivée, c'est pour débloquer le personnage de Solal, pour qu'on voit une autre facette de lui aussi. Mais c'est cool à jouer. En plus, les acteurs avec qui j'ai joué au début, du coup, Benji et Liam, c'était trop bien. C'est super de commencer avec des comédiens comme ça. C'était.
C'est quoi tes points communs entre Eliorissa, justement, et Thelma?
Très souriante, solaire. Elle ramène cette énergie positive instantanément. Je pense que ça, c'est un truc pour lequel mes proches m'apprécient beaucoup. C'est tout va bien. Il n'y a pas de souci, on peut s'amuser. Oui, bien sûr, il y a les examens, bien sûr, il faut être sérieux, il faut bien faire les choses, mais...
Il faut lâcher la pression.
Et il y a de la place pour l'amusement dans tout. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup avec Thelma, qu'on voit pas forcément chez les autres personnages, parce qu'il y a beaucoup des dialogues du style « Ah, mais c'est bon, oui, tu passes tes examens, mais on peut sortir après. Oh non, mais non, je vais rester, je vais réviser, etc. » Et on voit toujours ce contraste très important dans la série. Et ce qu'elle amène, ben, c'est ça que j'amène aussi... dans la vie de mes proches, j'essaie de leur faire comprendre que la vie c'est ok, c'est chill. Et on peut s'amuser, même si on a des obligations, on peut faire les deux en même temps. Et ça c'est un truc qu'elle et moi avons.
Partageons.
Ouais.
Et Eliorissa aime faire la cuisine aussi justement, pour les copains, pour les amis?
Alors pas du tout, moi je sais faire que deux plats, en vrai de vrai.
Allez vas-y, lesquels?
Alors je fais mon petit pavé de saumon et ma côte de porc, voilà.
C'est pas mal déjà.
Oui, je l'ai fait très bien, mais après c'est tout ce que je fais. Et moi en général, du coup là on vit tous ensemble avec les comédiens. Et moi je vais toujours être la personne qui va faire la vaisselle après. Mais tout le monde pense à moi pour quand ils cuisinent, ils pensent à moi. Tu vois, ils me font une petite assiette. Ah, et Eliorissa lui a mangé aussi. Tu vois, moi je cuisine pas, mais je sais faire semblant de savoir cuisiner.
C'est ça le principe d'une comédienne. C'est quoi ton parcours jusque-là, Eliorissa, avant d'arriver dans Ici, tout commence?
Alors, j'ai pas fait grand-chose du milieu. Moi, là, on m'a repêché d'un stage. Je faisais mon stage de fin d'année, licence, en commerce de la mode. Aucun rapport.
C'est vrai, mais c'est énorme, ça.
Aucun rapport. On m'a repêché. Du coup, j'ai tout arrêté pour venir sur Ici, tout commence et commencer, moi, ma carrière...
De comédienne.
Après, j'ai toujours voulu le faire. Hein. J'ai fait une année... d'art de la parole, donc ça s'apparente un peu au théâtre, en Belgique, en néerlandais. J'ai fait une année de ça, mais après j'ai totalement je suis passée à autre chose. Et là, l'année passée, j'ai fait un court-métrage avec l'école Courtrage-Mais. Et du coup, c'était moi le rôle principal, c'était une semaine de tournage et c'était une première pour moi. Parce qu'avant ça, je faisais que des publicités commerciales. Donc c'était une première pour moi.
C'est la meilleure école, là, ce qui est en train de t'arriver quelque part. Dans un sens, une quotidienne, vu le rythme de tournage, vu l'intensité, effectivement, de ce qu'il y a à jouer, il faut être efficace tout de suite. Au bout de 2-3 prises, parce que ça commence autrement à râler au niveau du timing. C'est vraiment, pour toi, en tout cas, ça c'est sûr, c'est la meilleure école.
Bah oui, non, absolument. J'ai pas fait d'école, mais du coup, j'ai un peu de stress en arrivant. Mes premiers jours, c'était un peu, ok, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je fous pas en l'air une journée entière de tournage par mon inexpérience, tu vois? Mais finalement, t'apprends sur le tas. Et puis on a des coachings et tout le monde est très bienveillant et t'as vite le truc, hein. Tu tournes tellement que tu chopes vite le truc.
Alors pour rappeler un peu l'historique de ton personnage, à la base t'es la fille d'un milliardaire qui est copain avec le père de Solal, qui est incarné par Marc Grosi, qu'on adore aussi. Et donc il t'a au début un peu, on va dire, flanqué à côté de Solal pour que, en gros, t'occuper. Hein, c'était un peu ça. C'était vraiment pour occuper la petite gosse de riche. Et puis finalement, bah voilà, ça s'est pris au jeu, tout ça. On a découvert des facettes du personnage tout au long du printemps et tout au long de l'été avant que t'intègres effectivement cette fameuse école. Tu te tiens prête là pour assurer le rôle pendant plusieurs années? Parce que, alors, 3 années, le master. Possiblement, c'est parti pour 5 ans.
Possiblement, c'est parti pour très longtemps. Mais comme je l'ai dit, j'ai mis beaucoup de mois dans Thelma. Donc, c'est facile à tenir au...
Sur la longueur.
Sur la longueur, je pense. C'est ça la clé, je pense, sur une quotidienne. C'est de mettre de soi, parce que sinon, c'est un rôle de composition à tenir tout le temps. C'est pas forcément évident. Mais je pense que ça va le faire, ouais.
T'as des répliques super bien écrites. Tu as un petit peu de place pour l'impro, on te laisse un peu improviser, où t'es vraiment sur le texte au cordeau. Parce que le bichon, il est sorti tellement naturellement.
Alors, au début, vu que j'étais stressée et que je voulais pas faire de gaffe, c'était vraiment le texte. Mais après, on se rend compte qu'on a le droit de, tant que l'intention reste la même, tant que la scène va vers le même endroit, on a le droit d'utiliser nos...
De proposer des choses.
Oui, voilà. Voilà, pour qu'on soit plus à l'aise, pour que ce soit plus naturel, peut-être plus actuel aussi des fois, les phrases qui se disent pas trop, ben on les rephrase. On a quand même pas mal de liberté. Tant que le sens reste le même, on a eu pas mal de scènes d'improvisation totale, pas pour moi encore, mais j'ai déjà vu des comédiens faire où ils improvisent totalement, mais c'est ok parce que ça veut dire la même chose finalement. Mmh. Et ça garde un peu de peps et les réactions sont plus naturelles aussi.
T'as des rêves de rôle? Justement, parce qu'ici, tu commences à certainement t'ouvrir des portes et te permettre de faire aussi d'autres choses à côté.
Ouais, bien sûr. Bah déjà, moi, je veux juste jouer parce que j'aime faire ça et j'espère vraiment pouvoir le faire pendant très longtemps. Mais j'ai des rôles de rêve.
Vas-y.
Alors déjà, j'aimerais jouer la royauté.
La royauté?
La royauté.
Genre, en costume et tout?
En tout. Genre, j'aimerais être une princesse, tu vois. Mais vraiment, que ce soit... correcte façon historique, enfin quoi que non, même Bridgerton c'est pas forcément correct en termes de réalisme, mais ça fait plaisir à voir, surtout que maintenant ils mettent des gens de couleur, tu sais, parce que moi je suis métisse en vrai, je peux ni jouer une princesse européenne, ni jouer une princesse africaine en vrai, ce serait compliqué, ce serait pas très juste, mais maintenant il y a la place pour des séries comme Bridgerton, j'adore.
Mais il va y en avoir, je suis sûr. Voilà, vu la pêche justement que tu mets dans Thelma, il va y avoir plein de choses qui vont t'arriver en tout cas. Et on va te suivre, hein. On sera à tes côtés évidemment pour tes prochains projets aussi. Eliorissa, bienvenue en tout cas dans la famille Ici Tout Commence. Et puis on te souhaite plein de belles choses pour les mois à venir.
Merci beaucoup.
On va découvrir plein de belles intrigues, j'en suis sûr. Il va s'en passer des choses autour de ces personnages en tout cas. Et puis moi j'ai été heureux d'avoir été ton bichon pendant 8 minutes comme ça ensemble.
Ça fait un plaisir pour moi également.
À bientôt.
À bientôt.
Il y a toujours de l'électricité dans l'air avant la rentrée. Ça me plaît beaucoup.
Moi je sens que ça va être ma rentrée préférée.
Ça va être dur. Ça va être dense.
J'ai crevé, mais j'adore.
Fabrice Cailly m'a passé le concours de l'institut, c'est une dinguerie.
Ça te dérange si on fait un petit selfie?
Franchement, ouais.
Ton comique qui tabasse son chef, t'as pas l'impression qu'il y a comme un problème?
Eh, je l'ai pas touché, je te dis.
C'est qui alors?
Inédit, Ici Tout Commence, la semaine prochaine à 18h30 sur TF1 et en streaming sur TF1+.
Allez, notre invitée pour cette rentrée est la Philippe qui est avec nous, qui joue Nisma. On est très heureux d'accueillir les comédiens de Plus Belle la Vie, Encore Plus Belle. On est à leur côté depuis des années. Et là, c'est la première fois qu'on t'a à notre micro. On est très fiers. Bonjour.
Bonjour, bah, je suis très contente aussi d'être à votre micro.
Merci d'être là. Franchement, on a cru vraiment tous, hein, que la série allait jamais revenir. Et puis miracle, le 8 janvier 2024 restera, je pense, une date qui va rester dans les annales pour les fans de la série, puisque la série revient sur TF1 avec un carton absolu, plus de 3 millions de téléspectateurs à chaque épisode entre TFX, TF1, MyTF1. C'est juste dingue ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu réalises, toi, que ce retour est un carton complet?
Je crois que je réalise pas beaucoup, parce que c'est vrai que j'ai un peu du coup le même train de vie qu'avant, mais je suis hyper contente de ce retour, je m'y attendais pas du tout. Et c'est vrai que quand ils m'ont rappelé Plus belle la vie, j'étais trop contente et j'étais en mode bah carrément, moi je suis de retour dans la série. Et mais on le voit aux statistiques et c'est vrai que c'est un carton et on est hyper content que bah, le public aime.
T'es la rescapée de la famille Bailly, hein, pour le coup, puisque t'es, à la base, t'es arrivée, t'es la nièce d'Elsa, qui est jouée par Caroline Bourg. Et c'est vrai que Nisma a un parcours dans la série très fort, avec des sujets de société très ancrés. Et à la fois, sur cette nouvelle version, on a l'impression d'avoir une Nisma beaucoup plus solaire.
Totalement, je pense que c'était le but, qu'on voulait montrer une Nisma qui est moins colérique et plus dans la tendresse et solaire, comme tu dis. Et du coup, c'est très agréable aussi à jouer. Mais c'est vrai que du coup, ces dernières semaines sont un peu plus compliquées et on peut retrouver ce côté sombre de son personnage.
Et oui, puisque là, il en arrive bien des choses justement à Nisma. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est depuis ce retour de Plus belle la vie, la série retrouve son ADN avec des sujets de société forts. Là, évidemment, on parle de grossesse, d'avortement, j'ai une jeune fille. Et c'est vrai que c'est des sujets aujourd'hui que la série ose aborder. Et c'est vraiment dans l'ADN, en tout cas, de Plus belle.
Ah, totalement. C'est vrai que depuis toujours, ça parle que d'actualité. Et c'est ce qui fait la série. Je pense que c'est pour ça que les gens l'aiment. Donc, ouais. Franchement, quand on m'a dit que j'allais jouer ça, j'étais très contente de te raconter ça en tant que femme. C'est touchant. Ça fait, voilà.
Alors, il faut dire aussi que Nisma a trouvé l'amour, quand même.
Nisma a trouvé l'amour. Mais.
Mais. Florian Aboud, qui joue justement ton partenaire dans la série, comment ça s'est passé entre vous, cette rencontre? Est-ce que ça a été naturel?
Ça a été naturel, on s'est bien entendu et je pense qu'on arrive vraiment à bien construire nos personnages ensemble et c'est agréable.
Et là, est-ce que là on te fait jouer quand même une intrigue très très forte là-dessus, justement pour cette rentrée? Ça va avoir un impact, j'imagine, sur ta vie d'étudiante?
On n'en parle pas trop de l'impact sur la vie étudiante. Donc non, je sais pas. Pour l'instant, pour la suite, je sais pas, je pense pas.
On va avoir des répercussions parce qu'on vient juste de commencer à le voir à l'antenne depuis quelques semaines. Mais on verra aussi l'impact que ça peut avoir, justement, un avortement chez une jeune fille. Et c'est un sujet voilà, fort, encore une fois, élaboré. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais qu'on te fasse jouer, justement, dans cette série? Une intrigue particulière qu'on t'a jamais fait encore jouer? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que t'aimerais, là? Si les producteurs t'entendaient, si Clémentine Planchon t'entend là.
Bah, j'ai déjà fait un peu de l'action, mais je crois que j'aimerais en refaire. Un truc un peu action.
Un peu de cascade.
Un peu de cascade, genre je kifferais. Vraiment,
j'aimerais
bien, ouais. Voilà, Clémentine, si tu m'entends.
Écoute, au moins le message est passé. Est-ce que t'as une scène favorite? Est-ce qu'il y a un moment particulier que t'as aimé depuis ce retour?
Alors je sais pas si j'ai une scène favorite, mais. Je crois que la personne avec qui j'aime le plus tourner, c'est Zoé Laïb. Et c'est toujours.
Parce qu'elle est drôle.
Elle est hyper drôle et d'une gentillesse, pensée à un amour. Et c'est incroyable de tourner avec elle.
Puis c'est un peu le yin et le yang, ces deux personnages.
Totalement. Mais j'adore comment elles se complémentent, en fait. C'est trop bien, on s'aime tout le temps.
Mais écoute, ça m'étonne pas du tout parce qu'elle a l'air très bonne vivante, en tout cas. Quand t'es arrivée dans la série, t'avais aussi le rôle de cette fille qui avait aussi la religion derrière. Et la religion a été très présente, en tout cas, dans le parcours de ton personnage.
Oui, c'était très présent.
Ça l'est. Tu as dû avoir pas mal de témoignages, du coup, là-dessus.
Pas tant que ça. Non, j'ai pas reçu tant de témoignages que ça. Mais c'est vrai que la religion, ça a été très présente. Elle défendait vraiment son bout de pain. C'est hyper important pour elle.
Des convictions très fortes.
Ouais, des convictions très fortes. Et on en parle moins maintenant, mais parce que je pense que dans l'ancienne version, on en a parlé et on sait comment elle est maintenant et ce qu'elle en pense.
Quand t'as vu les nouveaux décors, quand t'as vu ce nouveau plateau, tu t'es dit quoi?
Waouh, ils sont trop beaux. Alors vraiment, les décors, ils sont trop beaux. Le Mistral, le café, il est incroyable. Le restaurant est incroyable. Genre vraiment,
c'est un décor naturel maintenant en plus.
Tout n'est pas naturel.
Non, les extérieurs.
Les extérieurs, allô, c'est incroyable comme village, c'est hyper mignon, les gens sont super gentils, hyper accueillants, non, c'est top.
Tu te vois encore longtemps dans Plus belle?
Je sais pas, on verra bien.
Inch'Allah.
Inch'Allah.
T'as d'autres projets pour la suite, pour cette rentrée là?
Pour cette rentrée, j'ai pas d'autres projets, sinon à côté, j'ai aussi des petits plans dans la musique, j'ai des amis artistes et je les accompagne un peu.
Génial, t'as envie de chanter?
Moi, je ne sais pas si j'ai envie de chanter, mais...
Et eux ont envie de te faire chanter.
Non, moi j'aime bien les filmer surtout.
C'est pas mal non plus.
C'est pas mal, c'est très cool.
Ça, c'est un truc qui te plairait, réaliser ?
Ça me plairait, mais je pense que je me verrais plus réaliser du clip. Ouais. Je sais pas si je me verrais tout de suite là maintenant réaliser du long métrage ou de la série, mais du clip, ça me tente pas mal.
Écoute, on verra. Bah, ça sera l'occasion pour toi de revenir, nous voir.
Carrément.
Ah oui. Et là, on t'embrasse très fort. T'as été très proche d'un comédien. T'as partagé énormément de scènes. Je peux pas m'empêcher, quand je reçois certains qui ont partagé énormément de choses avec lui, de penser à lui quand je vous reçois. Évidemment, c'est Marwan Bérény qu'on embrasse très fort de là où il est. Mais en tout cas, voilà, je sais qu'il pense à vous tous et on l'embrasse très fort. Merci beaucoup, Ella.
Merci à toi.
À bientôt.
À bientôt.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. On aura le plaisir de recevoir Sophie Réville, la présidente du Festival de la Fiction Télé de La Rochelle pour cette année. Elle viendra nous dévoiler tous les contours de cette nouvelle édition, plus plein d'autres surprises évidemment.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode hommes, femmes, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.